Radio Kapi.
À la une, la situation des Congolais qui ont fui la guerre en Ukraine. Le gouvernement congolais met en place un comité de crise chargé de superviser les opérations de rapatriement et de réorientation de ses compatriotes réfugiés en Pologne. Ils sont au total 516 Congolais, dont des étudiants. Les députés congolais disent attendre beaucoup de la session de mars qui commence. Ils se disent préoccupés par la précarité de vie de leurs électeurs rencontrés durant leurs vacances parlementaires. Michel Kifindangoy, notre permanent au Parlement, les a rencontrés. L'invitée de ce matin, Madame Eudoxie Ndiavake, activiste pour la promotion des droits de la femme au Nord Kivu, elle nous fait le bilan de la lutte en faveur des droits de la femme dans cette province. Madame, Messieurs, bonjour. À l'instar d'autres pays du continent africain, la RDC décide de rapatrier ses ressortissants partis de l'Ukraine et qui se retrouvent en refuge temporaire en Pologne. Un comité de crise est mis en place depuis le mardi à Kinshasa. Il est chargé de superviser les opérations de rapatriement et de réorientation de ces Congolais. C'est à l'issue d'une rencontre entre le ministre d'État en charge du budget et la chargée d'affaires de la RDC en Pologne. Selon Clémentine Chakembo, ils sont au total 516 Congolais, parmi lesquels des étudiants en situation difficile sur le sol polonais qui ont fui la guerre en Ukraine. Des détails avec Jean-Désiré Kanyama.
Selon le ministre d'État en charge du budget, la situation difficile que traversent ces Congolais préoccupe le président de la République ainsi que le gouvernement congolais. Raison pour laquelle la chargée d'affaires de la RDC en Pologne a été vite rappelée au pays pour examiner sur place avec les autorités comment apporter des réponses idoines à leurs préoccupations. Sous la supervision du ministère des Affaires étrangères, un comité de crise a été institué ce mardi à Kinshasa afin de faciliter la prise en charge de ces Congolais. La chargée d'affaires de la RDC en Pologne fait le point de l'évolution de la situation sur terrain. Clément Chakembo.
Ils sont partis de l'Ukraine pour la Pologne. Il y a une cellule de crise qui va partir de Kinshasa à Varsovie pour gérer cette crise et surtout apporter de l'aide à nos ressortissants congolais se trouvant en Pologne. Le gouvernement s'engage à les prendre en charge.
Aussitôt, une dotation dont le contenu n'a pas été révélé à la presse a été remise à ce comité de crise par le ministre d'État en charge du budget afin de faciliter les premières prises en charge de ces Congolais avant les rapatriements au pays. La chargée d'affaires de la RDC en Pologne a fait état des 16 autres Congolais bloqués à l'université des Soumis à Kiev en Ukraine. Pour rappel, le gouvernement polonais a donné 30 jours de séjour humanitaire aux ressortissants non européens pour quitter son territoire, faute de quoi ils seront expulsés vers leur pays d'origine.
Nord Kivu, les femmes sinistrées de l'éruption volcanique du 22 mai dernier vivant dans le site de Kayembe, situé non loin de la ville de Goma, territoire de Nyiragongo, traversent un calvaire pour la survie de leur famille. Depuis 4 mois, les sinistrés estimaient environ 478 ménages n'ont obtenu aucune assistance. Mais comment ces femmes font pour faire face au vécu quotidien? Bernardine Diambou les a rencontrées.
Dans ce site, les gens dorment très mal, qu'il manque des bâches, il manque des matelas, il manque d'eau, il manque aussi à manger.
L'un de ces sinistrés rencontrés témoigne que les femmes qui ont trouvé refuge dans des abris de fortune en mauvais état sont dépourvues presque de tout. Depuis 4 mois qu'elles n'ont reçu aucune assistance venant ni des organisations non gouvernementales et encore moins du gouvernement congolais, suivant ces témoignages.
Lorsque nous allons effectuer des travaux champêtres pour les autres et lorsque nous allons couper du bois de chauffe, c'est alors que nous réalisons un peu d'argent. Il y a des fois aussi, nous faisons la lessive dans les ménages.
Pas magie.
Certaines femmes exercent de petits travaux ménagers à Goma ou un petit commerce pour leur survie. Les plus vulnérables vont chercher du bois, des chauffes dans les parcs. Elles disent être victimes de viols.
Nous sommes violentées lorsque nous allons chercher du bois de chauffe. Nous avons peur. Nous commençons même à utiliser les sacs de ciment pour préparer de la nourriture avec toutes les conséquences. Vraiment, nous souffrons beaucoup, surtout avec les viols. Déjà, il y a 6 cas, dont 3 femmes et 3 filles.
En plus des conditions précaires, plusieurs cas de malnutrition sévère et des maladies hydriques sont notifiés chez les enfants et les personnes âgées. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
La troisième édition de la Foire des femmes des médias a ouvert ses portes hier au Collège Boboto à Kinshasa. Elle est placée sous le thème « Promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement durable, un engagement pour la femme des médias ». Cette activité est organisée par l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite, ACOFEP, et l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, avec l'appui de l'ONG internationale Internews. C'est dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. C'est un reportage de Dandy Bompela.
Différents médias exposent leurs outils de travail et leurs produits. C'est notamment des livres, des journaux, des micros, des caméras. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Omuyaya, salue cette initiative. Il promet l'appui du gouvernement pour que les femmes de médias jouent pleinement leur rôle.
Il est de notre devoir, parce que vous savez que nous sommes, nous, dans la masculinité positive et que le président de la République a déjà plusieurs fois démontré par deux actes qui comptaient sur le leadership de la femme. Nous verrons comment donner un peu plus de coups de pouce pour celles qui en auront besoin, parce que ça ne sert à rien de parler des parités lorsque nous ne prêchons pas par l'exemple de comment nous constituons nos cabinets et de comment nous travaillons avec les femmes au quotidien.
Grâce Nginke, présidente de l'ASBEL à COFEP, explique la particularité de cette troisième édition.
Le combat que nous menons à travers l'organisation de cette foire, c'est l'autonomisation de la femme des médias, l'égalité des sexes. Nous nous battons pour que nous ayons un chiffre égalitaire des femmes au niveau des médias. À la CP récemment, 5 femmes ont été promue directrice et sous-directrice, donc il y a quand même des avancées dans le combat que nous sommes en train de mener.
La foire réunit outre le professionnel de médias, des organisations de défense de la liberté de la presse et des droits de femmes dans le média. Elle se clôture le vendredi 11 mars.
Et puis, les experts de l'Afrique de l'Ouest et ceux de la RDC, venus des différentes provinces du pays, ainsi que des partenaires européens, prennent part depuis hier à la Maison de France à Kinshasa à un atelier international sur la situation du choléra en Afrique. C'est le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando, qui a donné le coup d'envoi de ces assises de 3 jours, organisées avec le soutien de la Fondation Veolia et de Global Task Force on Cholera Control. Dans son adresse, le ministre Christian Mwando a invité les participants à proposer des pistes de solutions efficaces pour contribuer à l'éradication de cette maladie sur le continent africain. À travers cet atelier, la RDC s'attelle à partager son expérience dans la lutte contre le choléra avec d'autres pays d'Afrique en vue du lancement d'une initiative pour l'élimination du choléra en Afrique à travers l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Sachez que cet atelier est organisé en marge du Forum mondial de l'eau qui aura lieu le 21 mars à Dakar, au Sénégal. Les résolutions des travaux de cet atelier vont servir de matière pour le Forum mondial de Dakar. Je vous le disais en titre, poursuite de notre série de reportages sur les préparatifs de la rentrée parlementaire mercredi prochain. Plusieurs députés de retour à Kinshasa se disent vivement préoccupés par la précarité de vie de leurs électeurs rencontrés au cours des vacances parlementaires. Ils disent attendre beaucoup de cette session de mars pour faire avancer le pays sur le plan de sa pacification, de la consolidation de la démocratie, du développement, mais aussi de la bonne gouvernance. D'après eux, c'est une session qui sera consacrée à la fois aux questions législatives, de contrôle, mais aussi aux questions d'évaluation, notamment de la gestion du bureau de l'Assemblée nationale. Michel Kifindangoy nous en parle.
Cette session de mars 2022 qui s'ouvre mercredi prochain sera d'un enjeu majeur au regard notamment de la situation sécuritaire dans l'est du pays, affirme Crispin Bindoulé.
Nous devons évaluer la mutualisation des forces entre le FARDC et le PDF de l'Ouganda.
En ce qui concerne les questions législatives, cette session sera prioritairement consacrée à l'examen de la loi électorale, estiment Jacques Joly et Léon Mondolé.
Nous serons obligés, n'est-ce pas, d'aborder la loi électorale.
Le vote de la loi électorale, ainsi que tous les autres instruments juridiques indispensables pour l'organisation des élections constituent la principale attente pour cette session.
Quant à la question du contrôle, Christelle Vuanga veut des explications du gouvernement sur plusieurs aspects qui plongent la population dans la misère.
La question des routes où on avait promis un projet Kinshasa Zéro Trou qui n'a souffert que d'effets d'annonce. Il y a également la question du RAM. Qu'est-ce qu'on a fait avec tout cet argent récolté?
Pour la majorité des députés interrogés, le contrôle parlementaire au cours de cette session devrait aboutir à des sanctions des membres du gouvernement ainsi que du bureau de la Chambre mal évaluées.
Retour au Nord Kivu. Deux députés nationaux mis en cause dans le procès des ADF qui se déroule depuis quelques jours dans la ville de Beni. Kirotsongo Grégoire et Kasereka Kizerbo ont été cités par un combattant ADF comme collaborateurs et ravitailleurs de cette rébellion ougandaise. Des allégations rejetées par l'un des députés cités, plus de détails avec Martial Papi Mukeba.
Dans sa déposition devant le tribunal militaire des garnisons de Beni, le prévenu Kasongo Josué a déclaré que le député Kasereka Kizerbo ravitaillerait les ADF en armes et munitions, alors que son collègue Kirotsongo Grégoire serait en charge du ravitaillement en nourriture de cette rébellion ougandaise. Des allégations rejetées par les députés Kiro Grégoire.
Je dément formellement toute implication dans la tragédie que nous vivons à Beni depuis bientôt 10 ans. Je demande à ceux qui instruisent le dossier de requérir même un expert pour vérifier la santé mentale de cet individu avant d'accorder un quelconque crédit à ces déclarations. Personnellement, je continue à réclamer que tous les ADF et leurs complices civils comme militaires soient jugés afin que la vérité éclate au grand jour et je ne me laisserai pas distraire par des propos qui relèvent d'un montage grossier destiné à désorienter l'opinion. Je me réserve d'ailleurs le droit de me pouvoir en justice et je me battrai farouchement pour que mon honneur soit rétabli.
Selon des sources et de l'auditorat militaire de Beni, le prévenu Kasongo Josué n'a jamais fait une telle déclaration lors de l'instruction de son dossier. Il aurait toutefois avoué être combattant ADF depuis 10 ans et avoir participé en août 2021 à l'attaque de Kasana qui avait coûté la vie à 10 civils, précise ses sources. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
L'Office congolais de contrôle OCC Nord Kivu est doté de son propre laboratoire d'essais techniques pour des analyses approfondies. L'inauguration de cet ouvrage a eu lieu le mardi à Goma par le vice-gouverneur de province. C'était en présence du directeur général intérimaire de l'OCC, de plusieurs cadres et agents de cet office et d'autres services de l'administration publique. L'implantation de cet ouvrage à Goma arrive à l'heure où la RDC fait son entrée remarquée dans la communauté économique d'Afrique de l'Est, EAC. C'est à la grande satisfaction des partenaires de services publics, notamment la FEC. Explication avec Denise Lukeso.
Grâce à ces laboratoires d'essais techniques, l'OCC dit être désormais à mesure de communiquer à temps les résultats d'essais au lieu d'attendre la transmission des échantillons à Kinshasa, qui en était jusqu'ici l'unique laboratoire ad hoc, ce qui occasionnait les retards et les transports coûteux des échantillons à seule charge de l'OCC, dit son DGAI. Mais également, il va rassurer la population quant à la qualité technique des différents produits. Gabi Mampouya.
Cette province sera protégée contre toute forme de contrefaçon qui pourront découler de la qualité différente des produits importés ou fabriqués localement, des produits combien vitaux pour le développement économique et social de la province.
L'implantation et l'inauguration de ces laboratoires vient résoudre d'énormes problèmes en Nord Kivu, dit Deliance Matata Tsongo, président provincial de l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane ACAD.
Une marchandise normalement ne pourrait pas être dédouanée sans pour autant être contrôlé. Ces bâtiments ou bien ces appareils, ça vient de mettre la RDC dans les normes internationales de l'importation de marchandises.
Cet ouvrage procède de l'insertion de la RDC dans la dynamique actuelle du commerce international. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Direction Kananga, la SNEL veut mettre en place un dispositif pour desservir les abonnés fidèles afin de faire face au manque du carburant lui permettant d'alimenter ses groupes thermiques. Devant la presse, le directeur provincial de cette société a indiqué que cette option est levée après avoir constaté le non-paiement des factures après consommation de l'énergie électrique. À en croire Damas Moudipanou, la direction générale qui approvisionne régulièrement en carburant veut voir Kananga se prendre totalement en charge avec le paiement des factures par ceux ou celles qui consomment l'électricité, le directeur provincial de la SNEL Kasaï Central, dans ses propos recueillis par François Kadima.
Nous avons constaté que la plupart de nos abonnés ne veulent pas payer les factures, ce qui nous crée une certaine difficulté pour nous réapprovisionner de manière à les alimenter comme d'habitude. Raison pour laquelle, en faisant un échantillon peut-être d'environ 50 personnes, nous avons constaté et des arriérés et le cumul de tout avoisinait 500 millions. Des francs congolais. C'est ainsi que nous avons trouvé que c'est quand même trop exorbitant. Ainsi, nous invitons nos abonnés à s'acquitter de leur facture de l'énergie électrique de manière à nous permettre d'avoir le moyen pour les alimenter correctement. Les insolvables, nous n'allons pas continuer à courir derrière eux. Nous pensons que nous mettrons en place un dispositif tel que nous puissions alimenter uniquement c'est de nos abonnés qui nous ont fidèles, avec qui nous risquons même de signer un nouveau contrat pour les alimenter aux heures convenues, de manière à ce qu'ils puissent aussi être correctement servis par la SNEL.
Et après avoir donné du courant électrique 24 heures sur 24 au mois de janvier avec les nouveaux générateurs acquis, la SNEL indique avoir des difficultés à recouvrer les factures et s'approvisionner en carburant pour éclairer la ville de Kananga.
Actualité, Afrique Monde.
Macky Sall a porté la voix de l'Afrique dans la recherche d'une solution pacifique à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président en exercice de l'Union africaine s'est entretenu mercredi avec Vladimir Poutine. Le Sénégalais a notamment fait part de la disponibilité du président russe à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit. En attendant, les armes dictent leur loi. Le 24 février, l'Union africaine avait appelé au respect de la souveraineté nationale de l'Ukraine tout en mettant en avant le rôle primordial du dialogue. L'Afrique n'est pas épargnée par le conflit.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Madame Eudoxie Ndiavake, activiste de longue date pour la promotion des droits de la femme au Nord Kivu. Avec elle, nous faisons le bilan de la lutte en faveur des droits de la femme dans cette province. Elle a été reçue par Rosalie Zawadi.
Madame Eudoxie Ndiavake, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut noter comme grandes avancées de votre lutte des longues années en faveur des droits de la femme?
La lutte continue parce que c'est un petit nombre qui a compris que le 8 mars, ce n'est pas une journée de fête. C'est une journée de revendication, c'est une journée d'évaluation. Mais quand les femmes doivent penser qu'elles doivent fêter le 8 mars, donc nous avons un long chemin à parcourir. Nous devons encore sensibiliser les femmes pour qu'elles comprennent que le 8 mars ou le mois de la femme, c'est le mois où nous devons réfléchir et évaluer ce que nous avons déjà fait et programmer aussi ce que nous devons faire pour l'avancement de la femme et surtout à travers les différents thèmes. Parce que chaque thème a son sens et chaque thème nous donne des activités à mener durant l'année. On ne doit pas fêter seulement le 8 mars, on ne doit pas célébrer le 8 mars, mais on doit travailler toute l'année pour que l'année prochaine on puisse évaluer ce qu'on a fait.
Et je reviens à ma question sur les résultats. Comme activiste, Madame Eudoxie Ndiavake, si on pouvait noter un élément ou deux des réussites ou des victoires des femmes, qu'est-ce que vous nous diriez?
Moi je compare toujours à la première journée internationale de la femme qu'on a célébrée à Goma, où on a fait un plaidoyer sur l'adduction d'eau dans les quartiers Mabanga. Ça c'était vraiment une réussite. Si on pouvait suivre ce chemin, et chaque année on propose une action qu'on doit suivre pour qu'il y ait un résultat, on pouvait célébrer le 8 mars. Mais aujourd'hui, ce n'est pas visible les résultats par rapport à la lutte que nous menons. Parce que tout le monde ne s'y met pas. Si tout le monde s'y mettait, je pense qu'il peut y avoir un bon résultat. Parce que tout le monde doit comprendre que nous devons lutter et que nous devons travailler pour qu'il y ait un changement, et un changement positif et visible au niveau même de la base.
Et quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous faites face comme activiste des droits de la femme dans ce travail en faveur de promotion des droits de la femme au Nord Kivu?
Moi, je pense qu'il y a aussi des résistances parce qu'il y a certains hommes qui pensent que les femmes sont en conflit avec eux. Mais ce n'est pas un conflit parce que quand les hommes considèrent que c'est un conflit, ils ne sont pas disposés à accompagner les femmes. Mais les hommes qui ne sont pas en conflit, qui ne pensent pas être en conflit avec les femmes, accompagnent les femmes. Et nous voulons travailler avec les hommes parce que les changements doivent provenir des hommes et des femmes. Donc tous ensemble, nous devons travailler pour ces changements. Nous ne sommes pas en conflit, nous ne sommes pas en guerre. Le pays doit être dirigé par les hommes et les femmes. Et ça m'a étonné dans la salle quand on a montré que la femme fait tout. Mais quand vous reconnaissez que la femme fait tout, il faut le reconnaître à tous les niveaux. Quant aux questions de représentativité au niveau politique, on ne tient même pas compte des femmes au moment où dans la salle on dit que les femmes font tout. Si les femmes font tout, donc elles sont capables, qu'on essaie aussi de réfléchir par rapport à la représentativité de la femme à tous les niveaux et à tous les postes de prise de décision.
Et pour terminer, Madame Eudoxie Ndiavake, quel est votre vœu pour les femmes du Nord Kivu cette année?
Cette année, moi j'ai pensé que notre plus grand plaidoyer, c'était le retour de la paix. Parce que nous parlons environnement, nous parlons autonomisation, oui, Mais pendant la guerre, pendant que les femmes, nos consœurs à Beni, à Wicha, à Ituri, passent la nuit à la Belle Étoile, elles sont kidnappées, on ne peut pas parler d'avancement, on ne peut pas parler d'autonomisation. Sinon, on va parler d'autonomisation de la ville de Goma et on laisse le reste de la province, les territoires dans les territoires. Quel est l'état des liés des territoires dans notre province par rapport à l'autonomisation, par rapport à la situation de la paix? Moi, je pense que la paix, c'est une priorité des priorités et ça devait être notre leitmotiv aujourd'hui et durant tous les mois de la femme.
Madame Edoxine Diabaké, merci.
Merci aussi.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention.